Les envoyés des Rhodes tentent leur chance. Eux, ce qui les intéresse, c'est la politique. Ce sont les bons rapports que l'on doit entretenir avec les Romains. Et à Jésus, ils demandent « Est-il permis de payer le tribut à César ?» L'empereur qui règne à Rome se nomme Tibère, mais en souvenir du fondateur de leur lignée, Jules César, tous les empereurs ajoutent son nom au leur. Parler de tribut payé à César, c'est demander s'il est légitime pour un juif de payer l'impôt aux Romains. Ici, le piège est plus sournois, plus dangereux. Si Jésus répond affirmativement, il se révèle aux yeux de cette foule anti-romaine comme un ami des Romains. S'il répond par la négative, on pourra courir le dénoncer aux Romains. Voilà un homme qui conseille de leur refuser l'impôt. À peine la question formulée, Jésus demande qu'on lui apporte une de ses pièces d'or ou d'argent avec lesquelles il est obligatoire de payer l'impôt. C'est une pièce romaine. Elle porte l'image de Tibère et l'inscription est en latin. De qui est cette image ? Interroge Jésus. De qui est cette inscription ? De César, balbutient les envoyés d'Hérode. Alors Jésus répond : Rendez donc à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Voilà les politiciens, à leur tour, réduits au silence. Les Sadducéens, eux, ont préparé une question dont ils attendent un résultat infaillible. Une femme, ayant perdu son mari sans avoir eu d'enfant, épouse, comme la loi l'y invite, le frère de celui-ci. Si ce frère décède à son tour, et si elle épouse un second frère, et si de décès en décès, il arrive qu'elle épouse en tout sept frères, qu'arrivera-t-il au jour de la résurrection ? Auprès de quel mari se rendra-t-elle ? Jésus les foudroie. De quel droit ose-t-il imaginer que la résurrection ramènera à la vie les hommes et les femmes sous leur enveloppe humaine ? Dans la vie de l'au-delà, les problèmes misérables qui s'attachent à la terre ne se poseront plus. Les Sadducéens parlent d'hommes et de femmes de chair, rien de commun avec ceux qui ont cessé de vivre. Ils sont comme les anges, dit Jésus. Éliminez les Sadducéens. Éliminez. En bon ordre, les pharisiens s'avancent. Eux aussi ont soigneusement préparé leur plan d'attaque. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? On répète partout que Jésus prend des libertés condamnables avec la loi de Moïse. Sans doute va-t-il se trahir. Tranquillement, Jésus répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattachent toute la loi et les prophètes. » Pour les ennemis de Jésus, c'est une déroute totale. L'apôtre Marc, relatant ce face-à-face au cours duquel Jésus a triomphé, ajoute ce commentaire. « Et la foule nombreuse écoutait Jésus avec plaisir. » Vous serez d'accord avec moi, dans un langage plus moderne, cela signifie que cette foule-là jubilait. Dans la nuit du mercredi au jeudi, un homme se glisse dans le temple. C'est l'apôtre Judas. Eh bien, que vient-il faire ? Au cours de la journée, le grand prêtre Caïphe a une fois de plus réuni les princes, des prêtres et les anciens. De nouveau, disent les évangiles, ils ont délibéré sur les moyens de s'emparer de Jésus par ruse. Mais l'irritante question se pose toujours, puisqu'on ne peut l'arrêter au temple, où le trouver ? La nuit est tombée et l'on cherche encore. Alors paraît Judas. Ses traits sont altérés, son regard est plein d'angoisse. Les paroles ont peine à franchir ses lèvres. Enfin, on l'entend prononcer ces mots d'une voix mal assurée. « Moi, je vous livrerai Jésus. » Quelle stupeur autour de Caïphe. Judas est, d'un instant à l'autre, devenu le centre d'un prodigieux intérêt. Il s'explique. À la première occasion favorable, il conduira les gardes au temple à l'endroit où sera Jésus. Là, on pourra s'emparer de lui. Des cris de reconnaissance volent à l'adresse de Judas. Les prêtres se sentent si satisfaits qu'ils lui promettent de l'argent. 30 deniers. Judas repart dans la nuit. Vous devez savoir que depuis 2000 ans, on discute sur le cas de Judas. Pourquoi cet homme qui, comme les autres apôtres, s'est voué corps et âme à Jésus, qui a tout abandonné pour le suivre, s'est-il soudain résolu à le livrer à ses pires ennemis ? Pour de l'argent ? Eh bien, voilà qui est peu vraisemblable. Judas est le trésorier des douze. Il détient le petit trésor de guerre du groupe et y puise à sa guise. De plus, 30 deniers ne représentent nullement une grosse somme. Quelques jours plus tôt, le même Judas estimait la valeur du parfum répandu par Marie de Béthanie à 300 deniers. Plusieurs historiens pensent aujourd'hui que Judas attendait avant tout de Jésus qu'il délivre Israël de l'occupation romaine. Le jour des rameaux, enivré par les acclamations qui montaient de la foule déchaînée, il a cru que Jésus allait soulever les Juifs, se mettre à leur tête et appeler à la révolte contre les Romains. Tout le jour, enfiévré d'espoir, il a attendu, et en vain. Le lundi, le mardi, le mercredi, Judas continue d'espérer. Or, le mercredi soir, Jésus n'est toujours pas passé à l'action. Si Judas vient offrir au prêtre de le livrer, c'est parce qu'il veut forcer Jésus à dévoiler sa toute-puissance. Au moment où les gardes du temple voudront mettre la main sur lui, Jésus, d'un seul geste, les clouera au sol. Il se révélera dans toute sa gloire. Israël sera sauvé. Les Juifs, redevenus libres, vivront sous le règne du Fils de Dieu, ainsi que les prophètes depuis des siècles l'ont annoncé. Une occasion favorable, a dit Judas. Et il la guette. Ni le mercredi, ni le jeudi, on a revu Jésus au temple. Le mercredi, il retourne à Béthanie, où il retrouve Lazare et ses sœurs. Le jeudi, grande joie, sa mère le rejoint chez les amis qui l'accueillent hors de Jérusalem. Assurément, les craintes de Marie sont à leur comble. Elle ne peut rien ignorer de la terrible coalition qui s'est nouée contre son fils. Elle n'ignore pas non plus les paroles qu'il a plusieurs fois adressées à ses disciples le mardi soir encore. Il a dit « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » Depuis que Jésus a quitté Nazareth pour enseigner les foules, nous n'avons plus guère vu paraître Marie. Nous la devinons dans l'ombre, se réjouissant des triomphes de son fils, admirant ses miracles, mais toujours tremblant à la pensée de l'avenir qui l'attend. Sentant proche cette conclusion tant redoutée, elle a voulu être là. Dans la journée de jeudi, les apôtres abordent Jésus. « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» C'est à Pierre et Jean qu'il répond. « Allez à la ville. En arrivant, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Là où il entrera, dites au maître de maison, « Voici le message du Seigneur. Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, ornée de tapis, meublée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Aussitôt, Pierre et Jean se rendent à Jérusalem. Ils aperçoivent un homme, porteur d'une cruche. Spectacle très rare, car presque toujours ce sont les femmes qui vont chercher l'eau. Cet homme, ils le suivent. Tout se déroule, point par point, comme l'a annoncé Jésus. Ils trouvent la maison. On leur montre au premier étage une vaste salle, tout est en place. Table basse pour le repas, tenture, tapis, divans sur lesquels on s'étendra pour manger. À la mode romaine, on prend rendez-vous pour le soir même. Ils sont là, autour de Jésus, les 12. Tous, y compris Judas. Il est 5h30 du soir, la nuit est tombée, la Pâque peut commencer. Pour les Juifs, le festin pascal est une occasion de se réjouir. On se retrouve avec joie, on se félicite d'être là, on plaisante, on rit beaucoup. Pourquoi les visages des apôtres sont-ils empreints de tant de gravité ? Pourquoi Jésus lui-même, s'il sourit, montre-t-il plus de tristesse que de joie ? On guette ses premières paroles. Tout s'éclaire. J'ai désiré de manger avec vous cette Pâque, et grand était ce désir. Je le voulais avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne mangerai plus d'autre avant la Pâque parfaite, celle qu'on célébrera au royaume de Dieu. Donc, il confirme ce que les apôtres soupçonnaient et se disaient entre eux. Ce repas est sans doute le dernier qu'ils vont prendre avec Jésus vivant. Tout prouve d'ailleurs que Jésus veut lui accorder une solennité toute particulière. Avant de passer à table, il se dépouille de son manteau et enroule un linge autour de sa taille. Il verse de l'eau dans un bassin et passant devant les apôtres, il se baisse pour laver les pieds de chacun. Si grande est leur surprise qu'ils se laissent faire, sans rien dire. Pierre, le plus vif, le plus spontané, réagit le premier. « Quoi, Seigneur, tu me laves les pieds ?»« Si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Phrase un peu obscure qui peut se traduire ainsi. « Si je ne te lave les pieds, tu resteras à l'écart de ce que je veux faire ce soir. » « Ah Seigneur !» s'exclame alors Pierre de sa voix chaude et rude. « Alors pas seulement les pieds, mais aussi les mains, mais la tête !» Le cérémonial imprévu s'achève. Jésus tient à ce que les apôtres en comprennent tous le sens. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns des autres. » Ces phrases prennent un double sens. D'abord, Jésus conseille aux apôtres de l'imiter. Si lui s'est abaissé jusqu'à leur laver les pieds, il faudra qu'ils en fassent autant avec les autres, quoi qu'il puisse leur en coûter. Il ne devait pas être agréable de laver les pieds sales des gens accoutumés à marcher dans la poussière des routes et des chemins. Mais Jésus veut faire comprendre aussi que les hommes les plus puissants, les plus riches, doivent faire taire tout orgueil. Tout sentiment de supériorité. Ils doivent se faire non seulement les égaux des pauvres et des faibles, mais leurs serviteurs. C'est en souvenir de ce qu'a accompli Jésus ce soir-là que les rois de France autrefois, au moment où Pâques approchait, lavaient les pieds, souvent repoussant et répandant une odeur insoutenable des malheureux qu'on leur amenait. Avant de passer à table, quelques apôtres se disputent. Chacun veut être près de Jésus. Ils ont le droit à des reproches. Les rois des nations ne songent qu'à assurer leur domination sur elles. Mais vous, ne les imitez pas, dit Jésus. Que le plus grand d'entre vous soit comme le dernier. Que celui qui gouverne soit au même rang que le serviteur. Les voici étendus autour de la table. Des candélabres, quelques lampes à huile enveloppent de lumière les plats dans lesquels les convives plongent la main pour en retirer viandes et légumes. On se passe à la ronde les cruches pleines de vin, les coupes se remplissent. Peu à peu, l'ambiance est détendue. Comment ne pas se sentir heureux dès lors que l'on est en présence du Seigneur ? Et voici qu'une terrible parole tombe de la bouche de Jésus. « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Quelle agitation, quelle panique, les questions pleuvent. Est-ce moi, Seigneur ? Jésus ne répond pas. Judas, à son tour, interroge. Est-ce moi, Seigneur ? Jésus le dévisage. À voix très basse, il répond de façon à ce que, seul ou presque seul, Judas l'entende. Tu l'as dit. Le repas s'achève. Ce qui va se passer alors, aucun des apôtres n'a pu le prévoir. Comment aurait-il pu soupçonner que Jésus allait exprimer par quelques gestes, par quelques mots, son message le plus important et le plus profond ? Je préfère ici laisser la parole à l'apôtre Paul qui, tenant le récit de la scène de ceux qui y avaient assisté, l'a rapporté à ses amis de Corinthe, l'une des premières communautés chrétiennes. Jésus prit du pain, rendit grâce, puis le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, prenant la coupe, il rendit grâce, la bénit et la présenta à ses disciples en disant « Buvez-en tous, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle qui sera répandue pour vous et pour un grand nombre, afin que les péchés soient remis. Faites cela en mémoire de moi. » Déjà dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus a annoncé le pain de vie. Ici, il met le point final à cette communion qui lira d'abord ensemble ceux qui se réclament de lui et enfin les lira à lui. Ce moment capital, les chrétiens l'appellent la scène, du mot latin « cena » qui veut dire « souper ».